Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Esprit Occitanie. Sur Esprit Occitanie. Avec Romain Galtier.
Pour cette 8e émission, nous allons parler du canoë-kayak et du crêpes. Alors, concernant le canoë-kayak, qu'est-ce que le canoë-kayak? Le canoë-kayak et ses activités associées se pratiquent à bord d'une embarcation propulsée à la pagaie, en eau calme, en mer et en eau vive. La pagaie est un instrument à une ou deux pales permettant de propulser une embarcation sans point d'appui sur le flotteur. L'activité comprend différents supports, le canoë-kayak, le surf, ski, wave ski, etc. 9 disciplines sportives, le slalom, la descente, le freestyle, course en ligne, marathon, kayak polo, océan racing, va-a, wave ski surfing et le dragon boat. Pour ce qui est du CREPS, c'est un centre de ressources d'expertise et de performance sportive. Ce sont des établissements publics nationaux français, à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministère des Sports. Ils participent à la formation d'animateurs et d'agents publics, ainsi qu'à l'entraînement et à l'accompagnement de sportifs de haut niveau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Esprit Occitanie de recevoir une titrée olympique et championne du monde de canoë, mais aussi la directrice technique de la société Media Broadcast Technology. Notre invitée est aussi présidente du conseil d'administration du CREPS de Toulouse, une femme aux multiples talents qui va nous partager son parcours exceptionnel. Bonjour Sandra Forgue.
Bonjour.
Alors, vous êtes native de Tarbes?
Alors, oui, je suis native de Tarbes, mais enfin, j'ai passé une semaine à Tarbes. Non, j'ai vécu toute ma vie, enfin toute mon enfance jusqu'à les études supérieures, dans un petit village qui s'appelle Gerde, à côté de Bagnères-du-Bigorre, au pied du pic du Midi et en pleine Occitanie.
D'accord, donc vous étiez dans les Hautes-Pyrénées.
Voilà, dans les Hautes-Pyrénées et j'ai été après scolarisée à Bagnères-de-Bigorre et j'ai vécu toute ma jeunesse dans cette merveilleuse ville.
Et donc vous avez commencé le sport depuis tout petit ou toute petite?
Alors tout petit, oui. Avant de m'appeler Sandra, je m'appelais Wilfried et j'étais un garçon. Donc toute cette période, je l'ai vécue en tant que garçon. C'était vraiment le haut lieu du rugby, Bagnères-de-Bigorre. Dans les années 70-80, il y avait les Jean Gachassin, Aguirre, Gourdon, Bertrand, enfin tous ces grands noms du rugby. Et lorsqu'on voulait faire du sport, on faisait du rugby. Mais moi, je n'étais pas très doué avec un ballon, on va dire. Et mes parents étaient aussi dans le sport, sport côté plutôt amateur. Mais dans le canoë-kayak, dans le deltaplane, plutôt dans les sports de pleine nature, dans la rando, de la rando, du ski, un petit peu tous les sports. Donc j'ai eu la chance de goûter très rapidement à toute cette variété de sports que les Pyrénées offrent avec un grand domaine de pratique. Et très rapidement, je me suis mis au kayak et aussi à l'équitation, puisque ma mère faisait beaucoup d'équitation et c'est toujours d'ailleurs une grande passion.
Dans le sport, c'est une affaire de famille qui s'est transmise et qui vous a amené à ce parcours.
Oui, mon père adorait l'eau, même s'il n'était que prof de maths. C'est ma mère qui était professeure d'éducation physique et qui était à fond dans le sport. Moi, j'ai vécu ma mère, on va dire, en survette quasiment toute sa vie, sauf pour les soirées où elle se faisait belle. Mais c'est vrai que j'ai baigné dans un monde sportif, de sport, de pleine nature. Et voilà, donc ma mère n'aimait pas trop l'eau, mais était à fond dans l'équitation. Mon père était à fond dans le kayak. Donc j'ai un petit peu tout fait. Et par contre, il a fallu choisir à un moment donné quand le niveau de compétition s'est élevé.
Et qu'est-ce qui a motivé ce choix d'arriver dans une activité aquatique et notamment le canoë-kayak?
Ben, le canoë-kayak, c'est un sport très ludique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens champions qui continuent à faire du canoë-kayak. Les courses de master sont remplies parce que c'est un sport qu'on n'oublie pas. Même quand on arrête le haut niveau, on y revient parce qu'il y a une notion de plaisir et de glisse. C'est un sport de glisse, le canoë-kayak. Ce qui fait que depuis le débutant qui s'initie jusqu'au champion olympique, on a tous ces sensations de glisser sur l'eau, de descendre les rivières. Donc on voit aussi les paysages au travers de panoramas qu'on ne peut pas voir depuis les routes ou depuis les sentiers de montagne. Il y a un côté aussi qui défile lié aux rivières qui sont tumultueuses. Et il y a une vraie notion de jeu. Donc, moi, j'aimais beaucoup m'amuser quand j'étais petit. Et voilà, le kayak, c'était une excellente façon de m'amuser.
Alors, c'est un jeu, c'est ludique, mais cet aspect nature, c'est important aussi pour vous?
L'aspect nature est très important parce que lorsqu'on s'affronte à une rivière, si j'ose dire, on perd tout le temps. Donc, il ne faut pas l'affronter. Une rivière, ça se respecte, ça se lit, ça se guide. C'est elle qui dit ce que vous allez faire. Donc, vous, ben, vous avez un petit peu un delta pour vous immiscer derrière un caillou, derrière une petite chute, dans un calme. Vous descendez des rapides, vous surfez des vagues. Mais globalement, c'est elle qui donne le tempo de tout. Et donc, ce respect est totalement indispensable pour un côté sécuritaire. Si vous faites n'importe quoi, vous pouvez avoir un accident. Donc, dès petit, dès les initiations, on apprend à respecter cette rivière, à la lire, à la comprendre. Et cette éducation, on la retrouve après, globalement, dans la nature, où on apprend à respecter la nature, on apprend à respecter ses rythmes. Et de ce rythme, ben on s'en ressent grandi. Quand on va dans la nature et qu'on la respecte, on a l'impression d'être en osmose avec cette nature. Et c'est là qu'elle est la plus belle. C'est quand vous la respectez, elle vous le rend bien.
Et quand vous pratiquez le canoë kayak, vous sentez cette connexion avec l'environnement, la nature, avec cet univers-là ?
Oui, quand on pratique un sport de pleine nature comme le kayak, forcément, à un moment donné, on est en osmose avec la nature. C'est-à-dire qu'on fait partie d'elle. On est complètement associé à sa temporisation, à ce qui se passe. Et donc, c'est un petit peu comme un rando en ski ou ces choses-là. Lorsqu'il y a une avalanche qui arrive, elle ne vous avertit pas ou très peu. C'est à vous de faire attention à lire la montagne. Pour la rivière, c'est pareil. Il y a des niveaux d'eau. Si vous avez une crue, par exemple, ou un niveau d'eau très haut qui s'est élevé, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des rivières qui peuvent être de niveau, on va dire, presque débutant, qui, avec de très forts niveaux d'eau, peuvent devenir très difficiles, voire même avec des passages mortels. Donc, tout ça fait que vous êtes obligé de la respecter, vous êtes obligé de la comprendre et de la prendre. Vous ne pouvez pas arriver avec vos gros sabots et dire « je m'impose ».
C'est un sport dangereux, il faut quand même être vigilant et anticiper.
Non, ce n'est pas un sport dangereux du tout. Il y a très, très peu d'accidents, beaucoup moins qu'au football ou au rugby, par exemple. Hein. Ce n'est pas du tout un sport où on prend des risques. Hein. Ce sont des sports comme en ski ou comme en vélo, en VTT, dans tous ces sports-là. L'idée, c'est de pratiquer en gardant toujours une marge de sécurité par rapport à son niveau. C'est-à-dire ça peut être un petit peu dangereux pour un débutant d'aller sur une rivière pyrénéenne, on va dire, dans les gaves. Quand je dis dangereux, encore une fois, les accidents qu'il y a, c'est souvent des gens l'été qui font n'importe quoi, qui embarquent sans sécurité, puis qui font une hydrocution parce qu'ils viennent de passer 2 heures sur une plage en plein soleil, qui mangent bien, qui boivent bien, et puis d'un coup ils se remettent dans l'eau froide. Donc on appelle ça un accident de kayak, mais en fait la personne n'était pas dans le kayak ou très peu dans le kayak au moment de l'accident. Après, voilà, comme dans toute activité, il peut s'en trouver. Vous pouvez vous râper un genou, vous râper, avoir un bleu, c'est parce que vous avez tapé un caillou. Mais les noyades sont très, très rares. Par rapport au nombre de pratiquants, aucune mesure avec les accidents de la route ou encore une fois les accidents de rugby ou de football. Dans toute activité humaine, il y a des parts d'accidents et accidentologie que la société moderne essaye d'évacuer, mais ce n'est pas possible. Voilà, vous pouvez très bien mourir en sautant d'un caillou ou en sortant d'un trottoir. Donc, on essaye de tout contrôler, tout maîtriser, mais la nature est là pour vous rappeler que ce n'est pas vrai. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres de la nature, et il y a un cycle qui se fait, parfois il y a des accidents qui arrivent.
Tout à fait, et quand on est initié à ce sport, on connaît ces règles, et notamment ces règles de sécurité, pour justement limiter le faible risque qu'il peut y avoir dans ce genre d'environnement.
Dans ces sports-là, le mieux, c'est de s'affilier à un club. L'apprentissage, il faut le faire avec des gens qui connaissent, que ce soit la rando en ski, la montagne, que ce soit l'escalade, que ce soit le canoë-kayak. Il est préférable quand même de pratiquer dans un club parce qu'il y a des cadres, il y a des apprentissages et qui font que, d'ailleurs même pour vous, c'est beaucoup plus agréable parce que vous atteignez un niveau beaucoup plus rapidement qui vous permet justement de vous amuser davantage. Bien sûr qu'on peut acheter un kayak et descendre une rivière, c'est pas le problème, mais vous en profiterez moins que si vous avez fait un petit apprentissage avant.
Il vaut mieux être guidé, corrigé et prendre un réel enseignement technique.
Oui, c'est pas très long. En quelques mois, vous pouvez déjà, avec les bateaux d'aujourd'hui, vraiment vous faire plaisir, savoir tenir la pagaie. C'est pour son plaisir. Donc, l'idée, c'est quand même d'apprendre. Oui.
Et comment on devient champion olympique ? Comment en arrive-t-on là ?
Alors, on devient champion olympique. Moi, je ne vais pas dire par hasard, parce que ce serait faux. Mais c'est quand même un enchaînement de hasards et de rencontres qui vous amène à un jour participer à une compétition comme les Jeux olympiques. Et puis, faire partie, on va dire, des leaders. Et puis, ce jour-là, c'est vous qui gagnez. Donc, entre le débutant qui débarque dans un club et le champion olympique, il se passe quand même des dizaines d'années, on va dire. Pour ma part, c'est des rencontres. Et c'est un petit peu ce que je trouve génial dans cette histoire. C'est que tout s'est fait à base de rencontres, rencontres humaines, de passion aussi de bénévolat, par des gens qui n'étaient pas du tout payés, qui n'étaient pas des entraîneurs payés. Comme nous l'avons évoqué, j'étais un touriste avec mes parents, mon frère, les amis, au club de kayak de Bagnères de Bigorre, qui était un club de touristes. Il y avait très peu de compétiteurs, à peine niveau régional. Ce n'était pas l'ADN du club. C'était vraiment descendre les rivières espagnoles, françaises, essentiellement dans les Pyrénées, faire quelques sorties dans les Landes. Mais voilà, ça restait un petit peu autour de ça. À Tarbes, par contre, il y avait un club de compétition qui marchait bien et dans lequel il y avait des anciens, enfin des internationaux d'ailleurs, hein, qui revenaient de championnat du monde. Et il y avait une petite course justement à Tarbes et ces champions étaient venus faire une démonstration. Donc ben, moi j'avais accouru impressionné. Et puis il y avait un autre gamin qui courait à côté de moi, qui avait mon âge, et on courait pour les regarder. On avait les yeux tout grand ouverts. Et ce gamin, puisque moi aussi j'étais gamin, ben c'était Franck Addison, c'est celui qui est devenu mon équipier par la suite. Donc on s'est connus au bord de la Dour à Tarbes en regardant ces champions. Et quelques années après, un de ces champions est venu monter un salon de coiffure à Bagnères, puisqu'il était de formation coiffeur avec sa femme. Et il s'appelait Marc Labedens et sa femme Martine. Et ils ont monté un salon créatif. Voilà. Donc moi, j'allais évidemment me faire coiffer là-bas, plus pour voir le champion que le coiffeur, bien qu'il coiffait très bien. Mais voilà, au bout de quelques fois, j'ai avoué que j'étais du club de Bagnères, je faisais moi aussi du kayak. Et lui, il venait terminer sa carrière et il nous a proposé de nous entraîner et d'essayer de voir pour nous faire progresser. Et il a proposé au club d'entraîner les jeunes. Mais très rapidement, on s'est aperçu qu'il n'y avait que le haut niveau qui l'intéressait, la pratique de haut niveau, la compétition de haut niveau. Il avait un caractère très marqué sur la compétition, sur la réussite, mais très psychologue, très, très orienté dans la notion de plaisir, la notion de progression, d'acceptation de sa progression. Et voilà, donc l'hiver, ben, qui neige, qui pleuve, qui vente, il fallait être sur l'eau. À la fin de l'année, il ne restait plus que deux personnes à ces entraînements, c'était moi et Franck, en kayak monoplace. Et puis l'année d'après, on lui a fait la surprise de participer à une compétition en canoë biplace, pour la première fois de notre vie. Comme ça, on était monté dans un canoë, moi à l'arrière, parce que j'en avais fait un peu plus que lui, notamment avec mon frère. Puis étant gaucher, ben, je pagayais à gauche. Et puis lui, il a dit bah, je vais devant, allez, je vais pagayer à droite. Et on est resté jusqu'à aujourd'hui, toujours comme ça.
Et puis ça n'a pas bougé, vous avez été entouré par la même personne. Et
Voilà, on a été entraîné, on a voulu se sélectionner champion de France, c'était notre rêve. Et cette année-là, on s'est retrouvé champion, on était en catégorie cadet, 16 ans. Et on s'est retrouvé champion d'Europe junior cette même année-là. Donc on a explosé, on va dire, grâce à ses conseils, grâce aux conseils aussi d'une autre personne qui était son équipier à lui à l'époque, qui s'appelait Richard Hernance, dont ses enfants et dont un fait toujours du kayak aujourd'hui à très très haut niveau. Et voilà, donc ces enseignements liés à des rivières exceptionnelles qui sont la Dour et le Gave de Pau ont fait qu'on a franchi les étapes en temps record. En même temps, nous faisions des études, donc on a passé notre bac et on s'est retrouvé à Toulouse. Il y avait un pôle France qui s'était créé à Toulouse, donc on a bénéficié de cette structure. Et de fil en aiguille, sélectionné au championnat du monde une fois, puis la deuxième fois, on s'est retrouvé champion du monde. Et puis quelques
trois
années,
fois d'ailleurs.
Trois fois, oui, en tout sur notre carrière. Mais là, c'était tôt, ça a été pour nous, on va dire, une surprise, mais une belle surprise. L'année d'après, on a réussi à avoir une médaille de bronze au JO de Barcelone, et avec la ferme intention d'essayer de décrocher l'or Atlanta. Et là, ben, on a eu...
Le souhait s'est réalisé.
Le souhait s'est réalisé. On a eu aussi notre part de chance à cet événement-là. On a retenté 4 ans plus tard le même exercice qui a failli très bien se passer à quelques mètres de l'arrivée, à 3 portes de l'arrivée, pour un petit bout de menton qui n'a pas été jugé à l'intérieur d'une porte. On a pris une grosse pénalité, mais sans quoi on aurait pu avoir une remédaille d'or ou médaille d'argent. Voilà, donc on a arrêté notre carrière en 2000, sur un titre de champion de France d'ailleurs. et voilà, puis notre canoë biplace ne s'est pas arrêté, puisque bon, pendant 10 ans on s'est arrêté, c'est sûr, on avait autre chose à faire. Mais il y a quelques années, on est remonté sur l'eau pour se faire plaisir et on a regagné 2 fois les championnats de France chez les vieux, chez les vétérans. Et c'est le jour où voilà, la 3e saison démarrait. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on allait faire cette année comme saison. Et là, je lui ai dit, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Et je lui ai expliqué pourquoi. Parce que je suis devenue une femme. Voilà.
Effectivement. Que ressent-on après une réussite aussi prestigieuse qu'un titre olympique ou un titre mondial ?
Ma première réaction quand on avait gagné les JO, c'était... on va appeler ça un réflexe un peu bisounours, mais qui est vraiment réel, c'était celui de remercier les gens qui nous avaient aidés. C'est-à-dire que, bien sûr, que quand vous montez sur le podium, votre ego est vénéré, quoi, hein. Vous dites, ouais, j'y suis arrivé, c'est incroyable. Bien sûr que vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités, vous l'avez fait. Vous mesurez aussi la fragilité avec laquelle ça s'est fait, c'est-à-dire... on va dire sur les 15 personnes, les 15 premières embarcations mondiales, les 15 peuvent gagner. Donc aujourd'hui, c'est fou. Pourquoi vous ne refaites pas la course le lendemain, hein, vous la gardez. Parce qu'en plus, on ne dominait pas la catégorie. Voilà, on gagnait régulièrement lors de grandes échéances. Donc ça, c'était plutôt bien. On était quasiment tout le temps dans les 5 premiers mondiaux. Mais bon, voilà, il y avait des Tchèques, il y avait des Allemands, il y avait des Américains, il y avait d'autres Français qui nous disputaient les places aussi. Mais bon, voilà, sur la carrière, on a réussi quand même à décrocher les titres. Et on a envie de remercier tous ceux qui nous sont soutenus depuis le petit club où voilà, on vous aide à construire votre premier bateau, où on vient vous rechercher parce que vous êtes à la nage dans un rapide et quelqu'un vient vous sortir la tête de l'eau. Tous ces gens-là, ben, c'est comme un film qui se déroule et vous avez envie de remercier tous ces gens-là parce que sans ces gens-là, ben, jamais on n'aurait gagné ce titre.
Ça me fait penser notamment à un boxeur, Doudou Ngumbu, que j'ai reçu à une autre émission, qui m'a dit que son plus beau trophée, c'était sa toute première coupe qu'il a gagnée, que c'est par le commencement qu'il a pu honorer toutes ses victoires par la suite.
Oui, parce qu'on fait chacun son championnat, son Jeux Olympiques quelque part. Je dirais que moi, aux Jeux Olympiques, je stressais autant qu'à mon premier championnat de France en cadet. C'est après la multitude, on va dire, vous grimpez de niveau, mais la compétition reste la même, l'état d'esprit reste le même. Et voilà, c'est simplement que d'année en année, ben, vous vous confrontez à des personnes qui sont de plus en plus fortes, mais vous êtes aussi, vous, de plus en plus fort. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de petit niveau. Ce sont les défis qu'on se fait soi-même qui sont importants. Et on se fait un peu ces Jeux Olympiques, nous tous, à notre niveau. Moi, il s'est avéré que j'ai eu cette capacité en canoë-kayak à atteindre le plus haut niveau mondial. Donc oui, j'ai participé aux vrais Jeux Olympiques. Mais bon, voilà, depuis, je me suis mis au marathon, on va dire. Et là, je ne suis pas au niveau des Jeux Olympiques. Je fais mes propres Jeux Olympiques pour ne pas exploser dans des temps qui ne sont pas terribles. Mais chacun se fait ses petits défis. C'est ça qui est intéressant dans la compétition, c'est ce côté défi. C'est pas battre l'autre, c'est être meilleur que l'autre. C'est pas la même chose.
Et être même meilleur que sa précédente performance. Je sais que moi-même, pour courir aussi le marathon, de temps en temps, c'est vrai que c'est un véritable plaisir déjà d'arriver au bout. Moi, ça m'est arrivé de voir des personnes tomber dans les vapes à 800 mètres de l'arrivée. On a envie de le lever et de l'accompagner jusqu'à la fin. Parce que c'est vrai que c'est une épreuve qui est quand même exigeante aussi. Mais c'est plus un travail d'endurance, je dirais, le marathon. Et c'est quelque chose, je pense, qui est possible de se surpasser en permanence.
Ça fait partie de ces choses, le marathon, qui sont des vrais défis pour chacun, parce qu'autant faire un semi-marathon ou une autre course ou du ski de fond sur des distances moyennes, on va dire, c'est presque accessible à tout le monde, en abandonnant un peu si on n'est pas trop entraîné. Mais le marathon ou les ultra-trails ou toutes ces choses-là nécessitent quand même des fortes préparations, donc un investissement personnel pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Et c'est vrai que le jour où vous êtes lors de la compétition, ben ça prend encore plus cette ampleur. Si vous faites une activité qui nécessite deux, trois fois s'entraîner un peu, puis vous la faites, vous n'avez pas la même pression que si ça fait 2 ans que vous entraînez pour cet événement-là. Donc, effectivement, le marathon... alors moi, je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit marathon. Ma course de kayak, elle dure 1 minute 30, 2 minutes. Donc, on est plus dans les problématiques de 800 mètres en athlétisme. Et pour moi, faire un footing, c'était déjà à l'époque l'enfer. Je détestais ça. Et puis voilà. Et puis ma femme, puisque j'étais mariée, a décidé de se mettre à l'athlétisme et de se mettre à 45 ans, hein, donc vraiment sur le tard, au marathon. Et je me suis dit, je ne vais pas mourir bête, je vais moi aussi me faire ce petit défi. Alors, qui n'étaient plus les Jeux Olympiques, voilà. Mais bon, déjà finir le premier, puis après, on mord, on a toujours cet état d'esprit de vouloir progresser, de pouvoir s'améliorer. Donc, voilà, un jour, on connaît le mur, un autre jour, on connaît une victoire sur soi-même. Puis, c'est quelque chose qui est vraiment mieux. D'ailleurs, il y a une popularité énorme. Le marathon, il y a 20 ans, ça concernait quelques milliers de personnes en France. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de personnes.
Si on t'y prend pas assez tôt, il n'y a plus de place et c'est impossible d'accéder au marathon maintenant.
Notamment oui, les grands Paris, marathons, ouais, c'est
de
ça.
New York,
c'est... Londres, c'est compliqué. Je voulais faire Londres cette saison, on n'a pas pu, on s'est inscrit trop tard. Mais bon.
Et un autre marathon, ça doit être les études pendant ce genre de parcours, parce qu'un parcours olympique et même mondial hein, dans le sport de haut niveau, ça laisse du temps pour les études.
Oui. Là aussi, il y a de fausses vérités qui circulent dans le sport. Il y a cette, on va dire, cette jalousie du sport amateur sur le sport professionnel. Moi, combien de fois on m'a demandé, mais combien tu gagnes, combien ça te rapporte et compagnie. Et moi, te dire, mais attendez, moi je fais pas ça du tout pour ça. Bien sûr que j'avais des sponsors, bien sûr que j'avais des médailles qui m'ont rapporté un peu d'argent, qui m'ont permis, on va dire, d'acheter la moitié d'une maison. Mais un footballeur, il achète la moitié de maison en un jour, quoi. Donc j'exagère un peu, mais c'est pas ça. Donc globalement, c'est un peu comme la musique. Si vous voulez, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui crève les plafonds sur le top 50 ou le top 10 des ventes d'albums que ça en fait de lui un super artiste. Vous avez des jazzman, vous avez des gens qui sont un petit peu dans l'inconnu et qui sont 50 fois meilleurs artistiquement parlant. Et pourtant, il y en a un qui se met plein d'argent dans les poches et l'autre qui a du mal à vivre de son art. Pour le sport, c'est un peu pareil. Moi, ça m'a toujours fait rigoler quand on nous présentait les méthodes d'entraînement du rugby ou du football, sachant que nous, on faisait les mêmes il y a 10 ans, quoi. Donc, c'est souvent les sports justement qui sont difficiles, qui nécessitent beaucoup de recherches, qui font avancer la science du sport. Pas forcément les sports professionnels d'ailleurs. Donc, notamment sur tout l'aspect cardiaque, cardiovasculaire, l'athlétisme a amené beaucoup. L'athlétisme était un sport amateur. Et le fait d'amener le professionnalisme n'amène pas forcément de la qualité. C'est quoi un sport professionnel ? C'est quelqu'un qui a une fiche de paye. C'est-à-dire qui est payé pour ça, qui a une fiche de paye, un salaire. Et un amateur, il peut aussi parfois gagner un peu d'argent, mais il n'a pas de fiche de salaire. Il doit faire autre chose. Donc, le canoë-kayak, c'est un sport évidemment amateur, bien qu'à l'époque, on avait des sponsors qui auraient pu nous permettre d'en vivre, ce n'était pas le problème. Mais dans notre état d'esprit, dès que ça allait s'arrêter, et ça s'arrête vite, et ça peut s'arrêter d'ailleurs du jour au lendemain, une carrière sportive, ben, il fallait assurer ses arrières. S'il y a 30 ans, vous ne savez plus quoi faire, ça, c'est quand même compliqué. Donc, il a toujours été convenu qu'on ait un double parcours. Ce double parcours qui aujourd'hui d'ailleurs est demandé par la jeunesse et des sports, hein, pour tout sportif de sport amateur ou même professionnel. Hein. Le TFC suit une scolarité jusqu'au bac tout à fait classique. Hein. Donc les gens du TFC, et d'ailleurs avec beaucoup de réussite, malgré ce qu'on pourrait dire, hein, il y a un vrai suivi. Pour les sports professionnels, les études supérieures deviennent compliquées. Parce que les entraînements sont en plein dans les cours et c'est vraiment pas simple. Les sports amateurs s'adaptent davantage et vous pouvez faire des études, vous entraînez entre midi et deux, vous entraînez le soir, vous avez des, avec le CREPS notamment, il y a des conventions, donc il y a des entraînements ou des cours qui peuvent se décaler, des rattrapages de cours lorsqu'on en rate parce qu'on est allé sur les compétitions. Donc il y a toute une organisation autour du sport qui aujourd'hui permet de faire les deux. Alors, bien sûr qu'il est plus facile de faire du Facebook et de faire de l'Instagram tout le reste de la journée après s'être entraîné et de ne rien faire et de dire vive le sport professionnel. Parce que... Mais non, l'idée, c'est que dans toute activité, qu'elle soit professionnelle, artistique, sportive ou autre, il est important d'ouvrir un peu ses oreilles, ses yeux, puis d'apprendre autre chose. Il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Donc, en ce qui me concerne, moi, je n'étais pas du tout quelqu'un de doué dans les études, d'ailleurs. Ma scolarité a été un petit peu compliquée au départ. Mais bon, j'ai réussi à avoir un bac. À l'époque, ça s'appelait le bac D, donc c'est un bac S option biologie, mais avec 36 points de repêchage. Donc, ça vous donne un peu mon niveau que j'avais.
Pourtant, vous avez eu ensuite un MIAGE.
La MIAGE, oui.
MIAGE.
Après, disons que je me suis un peu énervée. C'est vrai que...
Et un DEA d'informatique.
C'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire. Et très rapidement, enfin, en terminale, mon père avait fait de l'informatique. On était un petit peu dans les années 90. L'informatique arrivait.
C'était un peu précurseur parce que maintenant, c'est à la mode. Mais à l'époque, il y avait très peu de personnes qui avaient justement les compétences en informatique.
Ça arrivait, ça commençait à arriver, les écoles, les IUT, les BTS, les maîtrises, les écoles d'ingénieurs commençaient quand même à se développer. Et donc, je suis arrivé au bon moment, on va dire. Enfin, au bon moment, il n'y a pas de bon moment, mais voilà. Je savais que par contre, pour intégrer ces écoles, vu que mon bac n'était pas terrible, il fallait que je passe par un DEUG de maths. Et maths et informatique, et j'avais un niveau quand même pas terrible, on va dire, mais j'avais une chance, celle d'avoir un père qui était prof de maths et qui m'a beaucoup aidé sur 2 ans. Mais là, je me suis beaucoup investi. Comme j'avais des championnats du monde ou des compétitions au mois de juin, souvent, je passais mes examens en septembre. Et pour ça, je travaillais tout le mois d'août. Je faisais 6 heures de maths par jour tout le mois d'août pendant que les copains allaient à la plage. Se baigner et s'amuser en vacances. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Donc, moi, je ne voulais pas trop perdre de temps. D'ailleurs, heureusement, parce que maintenant, quand on regarde les points retraite et que les années de retraite partent devant, ceux qui prennent trop de temps au départ, ils vont en baver à la fin. Et, ce qui fait que voilà, j'ai eu un cursus qui m'a demandé un aménagement. Cet aménagement m'a fait prendre 2 ans, on va dire. Et de fil en aiguille, après mon DEUG, j'ai réussi à intégrer la MIA, j'ai maîtrisé informatique appliquée à la gestion, avec des professeurs qui... Daniel Marquier, qui était le directeur d'ailleurs, qui est devenu le directeur de la MIA, avec Daniel Reynaud, qui était le directeur à l'époque, m'ont beaucoup soutenu dans mon projet, mon double projet. D'ailleurs, ils étaient là au jeu de Barcelone pour m'encourager. Et ça s'est vraiment très, très bien organisé. Ils s'investissaient avec moi, mais aussi ça me demandait de m'investir moi. Donc voilà, le canoë-kayak, c'est un entraînement, c'est 2 fois par jour. Globalement, c'est 4 heures d'entraînement dans la journée, parce que ce sont des entraînements quand même très intensifs. Donc au bout de 2 heures, vous êtes vraiment fatigué. Ce qui fait que 4 heures par jour, il vous en reste 20. Si vous en prenez 10 pour dormir, si j'exagère, il vous en reste quand même 10 à faire autre chose. Et dans ces 10, vous pouvez sans aucun problème faire des études.
Effectivement, nous allons même passer ensuite à votre parcours professionnel. Mais en attendant, nous allons effectuer une pause musicale avec un morceau proposé par Sandra qui se nomme...
J'étais là.
J'étais là, tu vois, lui à côté de moi. On avait 6 ans, on jouait comme des enfants au docteur. Au docteur. J'étais là, je voyais sur son corps les plaies, les marques, les bleus. J'en croyais pas mes yeux. Mes yeux. Et lui qui me disait, je suis un dur, tu vois les brûlures là sur mes bras. Je les sens pas. Je les sens pas. J'étais là, j'ai rien dit et puis je suis parti de chez lui. Si j'y suis retourné, plus jamais. était là en octobre 80, après la bombe de Copernic. Oui, j'étais à la manif avec tous mes copains. J'étais là, c'est vrai qu'on n'y comprenait rien, mais on trouvait ça bien, ça bien. Oui, j'étais là pour aider pour le sida, les sans-papiers, j'ai chanté.
Retour avec Sandra Forgue. Que vous inspire ce morceau ?
Alors, j'ai choisi J'étais là de Zazie, tout simplement. D'abord, j'adore Zazie. C'est une de mes chanteuses préférées. C'est la femme dont je suis fan. Elle représente cette force. Elle sait tout faire. C'est une excellente musicienne qui compose ses chansons, qui en compose pour les autres.
Pour toute la variété française. Même.
Toute la variété française. Elle chante elle-même. Elle représente cette force. Et dans toutes ses chansons, elle chante sa fragilité. Ou ses fragilités, les fragilités des femmes. Et elle en fait quelque chose de beau, de bien. Je m'identifie énormément à cette femme qui est belle, sans être un canon de beauté, mais qui est très glamour, qui est... voilà, pour moi, c'est un peu la femme idéale. Ouais.
Effectivement, elle a beaucoup de charme. Vous regardez The Voice ?
Ah, je regarde The Voice aussi, oui, comme tout le monde. Et puis, c'est son côté aussi très nature. Elle aime beaucoup la Corse. Elle est très proche de l'authenticité. Voilà, c'est un terme qui, pour moi, me parle beaucoup, l'authenticité. Et elle représente cette authenticité. Et cette chanson, J'étais là, ben, c'est caractéristique un peu des mots de notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur de la surconsommation. Bon, la première, d'ailleurs. On va dire, on se réfugie dans nos acquis, en essayant de sauvegarder tout ce qu'on peut sauvegarder autour de nous, même si ce n'est pas forcément terrible. Et tout ce qui se passe dans le monde, on voit bien avec les migrants aujourd'hui, on refute ça comme si nous, notre société, ne s'est pas construite sur ce passé-là. Quand les Espagnols ont débarqué au moment de Franco ici, il y avait aussi des gens qui les refusaient. Il y a des gens aussi qui disaient ben oui, je les ai vus se faire massacrer, j'étais là mais j'ai rien fait. Aujourd'hui, quand vous êtes issu de cette immigration espagnole en France, González, Sanchez, Hernandez et compagnie, ça ne vous pose plus aucun problème. C'est des gens totalement intégrés et qui ont fait la force du sud de la France et de l'Occitanie, notamment, puis du reste de la France d'ailleurs. Donc aujourd'hui, à grands coups d'insultes, on veut rejeter des migrants qui vivent des choses terribles, absolument terribles, et qui essayent d'aller chercher un havre où ils peuvent juste vivre. Et nous, on regarde ça avec un certain mépris. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il faut acquérir toute la planète entière, mais la France n'est pas non plus le plus beau Eldorado, faut pas croire, il y a d'excellents pays ailleurs. Et je crois que le sort qu'on leur réserve n'est pas digne de ce qu'on pourrait faire en se rappelant notre propre histoire. Donc cette chanson, ben, raconte un petit peu ça, en disant, ben oui, j'étais là et j'ai rien fait, j'ai tout vu, et pour moi, ça me parle. Alors est-ce que je fais plus ? Non, je suis un peu comme tout le monde, hein, ce n'est pas du tout une leçon de morale, c'est juste, ben voilà, quelqu'un comme Zazie qui le dit, et on fait des choses. Alors moi, je fais des choses plus pour sauver la nature, mais oui, moi je soutiens ces gens qui disent qu'il faut respecter davantage l'être humain dans son ensemble, et pas regarder que son nombril, oui, bien sûr.
Être moins égocentrique et plus à l'écoute de son prochain.
Oui, moins égocentrique, plus à l'écoute, ça c'est sûr, parce qu'on ne peut que en sortir grandi de ces épreuves-là, de cette humanité. Moi, je me souviens au championnat du monde que l'on a gagné en 91, au retour, on croise des colonnes de chars, comme on peut des fois rencontrer en France dans des exercices militaires. Mais enfin, là, il y en avait quand même beaucoup, des colonnes de chars, des camions militaires partout. En fait, c'était le jour de la déclaration de la guerre en Yougoslavie. Et nous, les champions du monde étaient à Ljubljana et on a croisé la guerre, en fait. Et on avait des copains athlètes qui se sont retrouvés avec un fusil dans la main, qui, 15 jours avant, avaient fait les championnats du monde, se sont retrouvés avec un fusil dans la main pour aller tuer l'autre qui avait fait aussi le canoë-kayak. L'un était croate, l'autre était serbe. Ils étaient dans la même équipe et du jour au lendemain, on leur a dit « Non, maintenant, vous allez vous tuer ». Et la guerre ne me parlait pas, moi, à cet âge-là. J'avais 21 ans, c'était la guerre de 39-40, ou celle d'avant. C'était de l'histoire pour moi. C'était pas possible que ça soit quelque chose d'actuel. Et là, on l'a croisé, on l'a vécu. C'est des gens de mon âge, c'est des gens avec qui on a mangé des glaces et on a bu des bières la veille, à qui on a donné un fusil pour aller tuer. Qui ? Ils savaient pas. Et ces gens, quand on les a revus après, parce que la guerre de la Slovénie a été très très courte, n'a duré que quelques mois, contrairement à la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Croatie et compagnie, on a revu ces gens-là qui avaient pris 20 ans en quelques mois. C'est-à-dire, ils ont été détruits. Détruits parce qu'ils ont vu par les atrocités de ce que l'être humain peut faire quand il est mauvais. Et les histoires... notre humanité, malheureusement, les génocides, l'apartheid, l'esclavage, enfin, on a des exemples qui sont longs et nombreux de choses terribles. Mais on a aussi des Gandhi, des Nelson Mandela, et on a aussi d'autres personnes qui font que l'humanité progresse, parce que quelque part, l'humanité progresse. On n'est quand même plus aux guerres du Moyen-Âge.
Qui apportent leur sagesse pour éduquer, justement.
C'est ça, voilà. Donc, bien sûr, on fait 3 pas en avant, 2 et demi en arrière, mais on avance quand même. Alors moi, je suis de nature très optimiste, et voilà, il faut choisir son camp. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et notamment en Occitanie, on a cette culture, on va dire, d'avancer, d'être toujours un petit peu en avant. Hein. Les moments Qatar et autres, à l'époque, nous ont montré qu'on pouvait être dans des civilisations très avancées. Et on voit bien aujourd'hui que toutes les études montrent que le sud de la France, et notamment l'Occitanie, va se développer de façon très forte. Et cette culture, moi je suis très, très culture. Je ne suis pas religion, mais je suis très culture. Et je crois qu'on a une très belle culture en Occitanie.
Une très belle région aussi, et je pense que beaucoup de régions nous envient. D'ailleurs, pour en revenir à l'activité dans la région, vous, la vôtre, vous êtes actuellement directrice technique de la société MBT.
Oui, MBT veut dire Media Broadcast Technology. C'est une société parisienne qui fabrique des logiciels pour la télévision et la radio. D'ailleurs, on pourrait vous équiper.
Ça ne serait pas du luxe.
Voilà, donc ce sont des logiciels qui permettent la diffusion, la gestion des médias, toute la gestion des studios, la gestion de toute la transformation des médias, du multimédia, puisqu'on est ce qu'on appelle le cross-média, entre Internet, entre la radio, le son, l'image, les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, il y a une transversalité qui fait que ça bouge tous les jours, il faut s'inventer tous les jours. Et moi, j'aime bien ces défis, ces nouveaux défis. Voilà. Donc, j'ai eu la chance, après ma carrière, où j'étais employé chez France Télécom à l'époque, puis France Télécom devenait Orange, avait besoin, on va dire, de maigrir un peu en termes de salariés et proposer aux salariés de monter leur entreprise. Alors, moi, j'avais un caractère très... qui bougeait beaucoup et j'étais jeune et je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, donc poussé par mon frère, j'ai monté une société qui s'appelait Kellern, qui fabriquait déjà des logiciels qui ne fabriquent pas des produits logiciels, c'est-à-dire pas des choses entières, mais qui permettaient à des systèmes de causer entre eux. À l'époque, la notion de protocole, hein, de choses qui permettaient de discuter d'un système à l'autre n'existait pas, ou très peu. Donc vous aviez des systèmes Sony, des systèmes Thomson. Si vous aviez les deux sur le même studio, ça devait être une catastrophe, puisque personne ne connectait. Donc ma première société permettait justement d'échanger des données d'un système à l'autre. Et puis en 2005, une autre société filiale de la maison mère s'est créée pour vendre des solutions entières. Et là, on a bifurqué et on a fusionné les deux pour faire ce qui est aujourd'hui Media Broadcast Technologies. Une très belle société.
J'imagine. Et en quoi consiste ce poste chez MBT ?
Oh ben, ce poste, on va dire, essentiellement un poste transversal, c'est-à-dire que vous avez le département du développement, vous avez le département du projet, vous avez le département du commercial, vous avez le département du support, hein, pour lorsqu'il y a des petits soucis. Et la direction technique, globalement, elle essaye de mettre un peu de l'huile dans les rouages et de vérifier la cohérence, on va dire, entre tous les départements qui ont fort à faire, mais qui parfois peuvent, on va dire, se regarder un petit peu trop dans leurs problématiques et moins voir la problématique des copains. Donc là, je suis là pour arrondir et faire en sorte qu'il y ait une fluidité qui se crée dans la société. Voilà.
Et professionnellement, est-ce que le monde du travail a changé pour vous en tant que femme ? Quelle est la différence avec le parcours que vous avez eu en tant qu'homme dans le monde du travail ?
C'est quelque chose qui est assez récent, puisque ma transition date de 2 ans maintenant, on va dire, enfin 1 an et demi. Et je ressens déjà les stigmates, oui, de cette différence du comportement, notamment des hommes, vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire que quand j'étais un homme vis-à-vis d'un homme ne va pas émettre une position physique. C'est les compétences entre différents hommes qui vont faire la différence entre les personnes. Mais à l'approche de certaines femmes, certains hommes se positionnent. C'est assez rigolo. Moi, je ne l'avais jamais remarqué quand j'étais un homme. Moi, en tout cas, ce n'était pas du tout mon style. Mais il y a des hommes qui, avant toute compétence, avant de sortir le moindre mot de la bouche, arrivent et s'imposent physiquement.
C'est le langage non verbal.
C'est le langage non verbal, c'est ça, qui est plus ou moins puissant. Et certains en abusent, certains intimident avant même que la moindre discussion ait lieu. Et je trouve ça très dommageable parce que la femme est plus dans un contexte de protection. On est tous très animaux, hein, quelque part. On a un comportement très animal et que les hormones gèrent un peu ça. Moi, je pense que les hommes sont plus à l'origine des chasseurs, donc orientés sur la cible. On cible quelque chose et puis on s'en fout un peu de ce qui se passe autour. Tant qu'on a la cible en ligne de mire, on est dans la cible.
La femme a une vision plus territoriale.
La femme, elle doit se protéger. Et la femme, pour qu'elle se protège, elle ne peut pas se planquer derrière un arbre. Hein, parce que l'animal, il va faire le tour de l'arbre, il va vous manger. Donc elle est obligée, pour protéger ses petits et se protéger elle, d'avoir tout un facteur périphérique qu'il faut contrôler. Et donc, beaucoup plus voir les conséquences de tout que la simple cible qui va être finalement qu'une conclusion à tout ce qu'elle fait. Et donc, moi, je ressens ça. Je vois les hommes qui foncent à fond. D'ailleurs, j'étais sûrement comme ça aussi. Qui foncent à fond quand il y a un truc, il y a machin, on fonce à fond, quitte à faire n'importe quoi ou ne pas voir les conséquences de ce fonçage, quoi, de ce sprint vers un but précis. La femme va prendre beaucoup plus de gants, beaucoup plus de contours, vérifier que tout va bien se passer. Donc quand un homme arrive et impose physiquement, il impose un combat au lieu d'imposer un débat d'idées. Et donc la femme, elle va reculer un peu. Et ben, soit elle va devoir devenir agressive pour s'imposer, inutilement, on va dire, soit reculer. Et en tout état de cause, le but initial qui est celui de partager une idée et de faire progresser l'ensemble n'est pas bon. Donc, soit ça part en combat et l'homme va essayer de gagner en utilisant sa force, pas forcément une physique pour se battre, mais une force d'imposition,
de persuasion,
en, en reprenant sa voix grave, en faisant résonner les résonances basses. Alors c'est assez rigolo, quoi. Vous avez des hommes qui arrivent et qui prennent tout de suite des énormes voix de poitrine.
C'est le rugissement du lion.
C'est le rugissement du lion, quoi. Enfin, on est vraiment dans un contexte très animal. Tous les hommes ne sont pas comme ça, bien évidemment. Et moi, je trouve une parade, c'est assez rigolo. Quand je vois quelqu'un maintenant qui aujourd'hui, je le vois arriver avec ses gros sabots, parce que bon, voilà, j'étais un homme, donc je sais très bien que derrière, ça peut être très faux, tout ça. Et quand je vois un homme qui, comme ça, arrive vers moi et puis qui impose, qui se met devant, qui physiquement s'impose, j'ai ce réflexe de protection, de recul instantané. Et tout de suite, je m'écarte, je me mets sur le côté, je viens le prendre sur le côté. Et donc, il est obligé de se repositionner pour me faire face. Et là, tout de suite, ben, on tombe les masques. Et là, on peut discuter.
Comment vos collègues féminines vous ont perçu quand vous êtes arrivée en tant que femme ?
Ben, c'est plus facile pour les collègues féminines parce que si vous voulez, vous avez un homme bon, qui avait quand même un caractère féminin. Donc moi, je n'imposais pas, je n'ai jamais rien imposé. J'ai toujours accueilli tout le monde dans la bienveillance. Donc, elles avaient un bon copain, elles ont une copine, donc c'est plus facile. Ou elles avaient un collaborateur, ils ont une collaboratrice. Ben, à la limite, c'est plus facile pour elles. Voilà, à compétences égales, évidemment, c'est celles qui sont repéré. Donc, pour elle, je pense que c'est plus facile. Un homme, ça change beaucoup de choses parce que les hommes entre eux ont toujours ce petit combat de coq. C'est un jeu dont on ne s'aperçoit même plus. C'est un côté d'un peu d'intimidation qui a un côté très amusant. On se charrie. D'ailleurs, on voit bien les adolescents entre eux. Ils se tapent sur les épaules. Ils se bousculent.
Même être cruel. Hein,
oui, ça peut être. Oui, mais voilà. Après, ça peut être dangereux ou ça peut être inutile et totalement déplacé. Mais même entre copains, il peut y avoir un petit peu ce côté combat entre mecs. Donc, quand vous avez des collaborateurs, il y a toujours un peu ce petit combat qui se crée, des petits rituels, des petites choses de complicité entre mecs. Et là, vous arrivez, vous êtes une femme, ils ne peuvent plus faire ça. Et là, ils sont perdus. Donc, c'est assez rigolo, d'ailleurs. Et c'est à moi de leur montrer qu'au fond de moi, c'est la même personne, que je n'ai pas changé. Et que voilà, bon, à part ces petits jeux-là de mecs, un peu de macho, tout le reste, c'est resté. Mais c'est vrai qu'il y a une adaptation qui est plus longue, plus lente. Et de toute manière, dans tous ces problèmes de transidentité, de transition, il faut laisser le temps. C'est très perturbant pour les gens. Les repères sont quand même très marqués, homme-femme. On reste dans une société très binaire. Et c'est vrai que le changement de l'un à l'autre ouvre des introspections. Mais au final, je suis qui ? Je fais quoi ? Donc, je fais poser beaucoup de questions. Donc, le temps que les personnes répondent à leurs propres questions, puis après reviennent vers moi, il peut se passer beaucoup de temps. Mais moi, j'en ai, ce n'est pas un problème.
Et quels sont les inconvénients en tant que femme et les avantages ?
Moi, je ne vois que des avantages à être une femme. Je plaisante. Mais oui, je suis devenue très féministe d'ailleurs, parce que je vois la stupidité de l'inégalité homme-femme. C'est vrai que moi, depuis ma tendre enfance, j'ai ce sentiment qu'il y a un truc qui cloche dans mon identification. Donc, je me suis identifiée par copie, par modèle à tout mon entourage masculin et je suis devenue un homme. Mais au fond de moi, je sentais bien que ce n'était pas du tout ce qui m'attirait et ce que je ressentais. Donc, j'ai combattu contre moi. Voilà, j'ai vécu une vie à me combattre avec des grands moments de bonheur. Hein. J'ai vécu heureux, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, à l'approche de la cinquantaine, vous dites, je ne peux pas passer toute ma vie à côté de moi. Quoi. Je ne peux pas pédaler à côté du vélo, sûrement que si je pédale sur le vélo, ça ira plus vite. Donc, cette différence homme-femme, moi, je la vis où je ne m'imagine plus être un homme. Quoi. Enfin, pour moi, ça ne m'attire pas, ça ne me parle pas d'être un homme. Je ne me vois pas vieillir en homme. Alors qu'une femme, oui, je ressens, enfin, mon intimité, ma profondeur intérieure est une femme. Sûrement par un câblage du cerveau petit ou prénatal, on n'en sait rien. Aujourd'hui, les causes, on ne les connaît pas. Mais j'ai ce profond sentiment et ça ne sert à rien de lutter tout le temps contre soi-même. À un moment donné, on peut aussi vouloir être heureux, intimement. Et quand je vois maintenant donc, la différence entre les hommes et les femmes, les différences sont nombreuses, mais elles ne sont pas de la nature dont on les présente. Une femme peut très bien faire tous les métiers, toutes les activités d'un homme. Le côté physique, aujourd'hui, avec la technologie, n'est plus trop un problème. Effectivement, à l'époque, vous aviez un énorme camion avec des roues qui n'étaient pas aidées. Donc, il fallait beaucoup de force pour tourner. Ce n'était pas très, très sympa. Aujourd'hui, avec les assistances qu'il y a, avec le petit doigt, vous tournez un volant. Donc, il n'y a aucune raison qu'une femme, et d'ailleurs, on en voit de plus en plus, qui sont chauffeurs routiers, de bus, de car. Dans tous les métiers, aujourd'hui, la capacité des femmes est identique. Il y a cette différence près que, effectivement, les hormones jouent dans ce côté immédiateté pour les hommes. Voilà, il faut un truc, que les choses se fassent immédiatement. Chez les femmes, il faut prendre un peu plus de temps, un peu plus de réflexion, un peu plus de recul. Mais voilà, les femmes astronautes font un boulot extraordinaire, hein, même parfois reconnu par les hommes. Et il n'y a aucune raison qu'on différencie autant les femmes que les hommes. Il y a ce côté gestation pour faire des enfants, mais voilà, il faut bien qu'à un moment donné, ça se passe. Donc arrêter des carrières, arrêter tout ça, c'est d'un ridicule. Et ça ne fait pas honneur aux hommes. Moi qui étais un homme, la discrimination envers les femmes, que ce soit salariale, que ce soit communautaire, que ce soit, c'est vraiment la honte des hommes.
Elle est indigne.
Ah, c'est indigne d'une humanité. C'est-à-dire qu'on ne s'en remet qu'au règne animal. Voilà. Je crois que l'humain mérite plus que le règne animal. Et je pense que les femmes ont démontré, et malheureusement doivent toujours démontrer, qu'elles sont aussi fortes que les hommes.
Du coup, vous avez vécu deux vies, on peut dire. Quel a été ce... Il faut un sacré courage, je pense, pour faire ce pas. Je pense que la société actuelle le permet plus facilement, vu que les mentalités ont évolué.
Oui, moi, je bénéficie de mes aînés. C'est-à-dire que dans les années 70, 68, mais 68, on est en plein anniversaire de mes 68, ce qui a été célébré, c'est surtout la libération du corps, la libération de la personne. On était dans des modèles sociétals imposés. On vous disait, ben, vous allez être comme ça, vous allez faire ça, vous allez avoir tel loisir, vous allez ainsi de suite. Et vous allez travailler comme ça, vous allez faire telles études. Toi, ton père était ouvrier, tu vas être ouvrier, ainsi de suite. Tu étais paysan, et toi, tu étais fils de riche, donc tu vas reprendre la richesse. Donc, globalement, mai 68 a donné un espace de liberté, un espace de formation, hein, puisque c'est quand même les étudiants qui sont partis à l'attaque, justement pour dénoncer, on va dire, ces clivages et ces clichés de la société, pour dire qu'il fallait une société plus libéralisée. Oui. Voilà, plus libéralisée. Et la libération du corps, et notamment la libération du corps de la femme, a amené justement encore plus à cette bivalence homme-femme. C'est-à-dire qu'on a encore plus séparé les hommes des femmes, le corps étant très différent. Très différent, ce qu'il faut d'ailleurs, hein, à part l'organe génital et le fonctionnement des hormones qui modifient un peu les choses. On a quand même 99,99% de choses identiques. Mais bon, globalement, la forme, le visuel au moins, les odeurs et le visuel des formes est très différent. Ça a exacerbé un petit peu ce modèle bivalent homme-femme. Et est née aussi les problématiques et la défense des homosexuels. À cette époque-là, c'est là que les grandes luttes pour lutter contre l'homophobie est apparue. Ce qui fait que il y a à peu près 10 ans, l'homosexualité était quelque chose d'accepter globalement. La discrimination existe toujours, ce qui est très dommage, mais ça existe toujours. La transidentité, c'est-à-dire les personnes transgenres, c'est très récent. C'est très récent. Pourquoi ? Parce que, justement, mai 68 n'a pas encouragé la problématique de la transidentité, puisqu'il fallait encore plus accepter le corps d'une femme, il fallait que la femme s'accepte dans son corps et que l'homme s'accepte dans son corps, et qu'on accepte les pratiques sexuelles qui se passaient, qu'elles soient qu'elle soit entre personnes de même sexe ou de sexe différent. Mais jamais on remettait en cause un corps qui n'était pas celui de l'esprit, qui n'était pas celui foncièrement organisé par le cerveau. Donc, ça a malheureusement poussé la transidentité dans tout ce qui était festif, tout ce qui était représentatif, un peu la bête de cirque. Donc, vous faisiez du cabaret, ou vous faisiez des spectacles de karaoké sur les chansons de Marilyn Monroe avec des robes à paillettes. Voilà, c'était ça, une personne. Et il y avait ce côté travesti, ce côté festif, ce côté où la prostitution. Voilà. Donc on a complètement sexué la problématique de la transidentité. C'est-à-dire, si vous étiez une personne transgenre, en fait, vous étiez soit un pervers sexuel, soit une prostituée, soit un travesti, quelqu'un qui ne savait pas où il était, qui était complètement perché, et donc on le mettait dans les métiers de la nuit. Et cette image-là, il restait très, très, très longtemps ancrée dans les mentalités. Et d'ailleurs, on en sort à peine.
C'est quand même une projection dégradante qu'on peut faire à une communauté.
Ah, mais complètement. C'est-à-dire que ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des sociétés qui ont fait le bonheur de milliers d'années, notamment en Amérique, tout ce qui était les Indiens, les cultures indiennes, Maya et autres, la transidentité existait très bien, sans aucun problème, ça ne gênait personne. Et on va dire, c'est dans nos sociétés occidentales que l'on a créé ce genre de personnage spectacle, ce personnage dégradé, comme vous le dites, parce que on était des malades mentaux. On était des malades mentaux. C'était totalement inconcevable qu'un cerveau ne puisse pas être câblé comme le corps avait été fait. Voilà, c'était pour les gens, on va dire, qui n'avaient pas cette problématique, ils ne cherchaient pas à comprendre plus loin. Et ils ont dit, le corps ne correspond pas à l'esprit, on va faire quoi ? On va changer l'esprit, puisque le corps, il est là. Mais sauf que l'esprit aussi, il y est. Mais comme on a dit, ce sont des débiles mentaux, donc on va les soigner. C'est parti comme ça. Et la France s'est organisée autour de cette mentalité, y compris encore d'ailleurs. Vous avez les circuits officiels de la SOFEC, c'est la Société française d'études des cas de transidentité, qui encore base tous ses travaux sur les problématiques de psychiatrisation de la transidentité. Si on est transidentitaire, c'est parce qu'on est psychiatrique, on est des malades mentaux. Et alors qu'il y a beaucoup d'autres sociétés dans lesquelles c'est pas du tout le cas. Et moi, tel que je le ressens, d'ailleurs, je suis allé voir un psychiatre dans le parcours en dit non officiel, mais tout simplement pour savoir si je me faisais un film ou si vraiment si j'avais pas, je voulais être certaine que je n'avais pas une maladie mentale, un dédoublement de personnalité ou quelque chose. Au bout de 40 minutes, le psychiatre m'a dit « Mais vous êtes tout à fait normal, vous n'avez strictement aucune maladie mentale. » Il m'a dit « Mais par contre, oui, vous avez les stigmates d'une personne transidentitaire, donc c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire vos choix, mais je vous confirme que vous n'êtes pas malade mentale. » Dans les circuits officiels, le psychiatre vous suit du premier jour au dernier jour. C'est-à-dire que même pour vous refaire le nez, le psychiatre il est là pour savoir si vous devez le refaire ou pas. C'est complètement lunaire, quoi. Et bref, donc du coup, cette transidentité aujourd'hui commence à se montrer dans son vrai visage. C'est-à-dire, il y a des travaux qui sont faits sur la fabrication du cerveau prénatal, avant la fabrication des organes génitaux. Et le cerveau sécrète toutes les hormones d'ailleurs, hein, les trois hormones féminines et masculines. Et ils essayent de déterminer, de savoir s'il n'y a pas une inversion, c'est-à-dire qu'avec un génome XY, c'est-à-dire masculin, le cerveau va être plus atteint par la problématique d'hormones féminines au moment de sa création, de son câblage, et donc du coup, câbler un cerveau plus féminin, plus orienté sur le côté féminin.
XX
Et alors ça, c'est la partie chromosomique qui va après déterminer l'ensemble du corps. C'est-à-dire, vous allez développer un pénis plutôt qu'un clitoris, vous allez développer toutes les caractéristiques osseuses liées à un garçon ou à une fille, avec des hanches plus larges pour une fille et des épaules plus larges pour un garçon. Mais la partie du cerveau, elle reste câblée telle qu'elle était. Elle se développe avec le câblage qu'elle a eu prénatal. Et donc, il se peut qu'on ait une inversion. C'est-à-dire que moi, j'ai un cerveau féminin dans un corps d'homme, tout simplement. Et donc, l'idée n'est pas de changer le cerveau, parce que ça, de toute façon, on ne pourra pas le faire. Ça, c'est clair. mais changer le corps, on peut, comme un handicapé, tout simplement, qui a un problème à la naissance et à qui on va... favoriser telle ou telle intervention pour qu'ils puissent être plus à l'aise dans la société. Et la transidentité, c'est ça. C'est comment être accepté dans le genre opposé à celui assigné à la naissance et comment on peut faire pour changer son corps de façon à ce qu'à un moment donné, on se sente à l'aise dans la société avec le nouveau genre. D'où la prise d'hormones, de traitements, d'opérations diverses et variées. Mais au bout d'un moment, on se retrouve en se regardant dans le miroir où on finit par s'aimer. Oui, moi, j'avais un corps d'homme qui était superbe, tout le monde disait, que je détestais. Absolument. Quoi. Je ne comprenais pas que j'avais un corps comme ça. Enfin, je ne comprenais pas. Je comprenais très bien que j'avais un corps comme ça, puisqu'en plus, je le développais en faisant la musculation pour le kayak. Mais il ne me faisait pas plaisir. Je ne me suis jamais regardé dans une glace en me disant waouh, c'est sympa. Non, moi, je voulais des hanches, des seins. Je voulais des. Et voilà. Puis un jour, vous apprenez que vous n'êtes pas la seule sur Terre. Vous apprenez qu'il y en a d'autres. Vous apprenez qu'il y en a même beaucoup. Que c'est la nature, c'est la biodiversité qui est comme ça. On n'y peut rien. On n'a rien choisi. Et l'idée, ben, c'est d'être dans une société bienveillante, dans une société où tout le monde accepte tout le monde. Je ne vois pas pourquoi des personnes comme moi, on serait moins compétentes ou moins à même de pouvoir aider l'autre. Et je crois que si on s'aide tous, on y arrivera beaucoup mieux.
Effectivement. Et j'imagine qu'au niveau administratif, ça n'a pas dû être simple comme démarche d'échanger de sexe et notamment justement de faire toutes les démarches administratives. Déjà que c'est compliqué quand on reste dans le même sexe, alors j'imagine que ce changement, ça doit pas être évident.
Puis c'est quelque part, ça se simplifie puisque les personnes qui ont les personnes transgenres il y a à peu près une vingtaine d'années jusqu'à aujourd'hui sont battues, on fait en sorte que de nouvelles lois sortent. Et donc ces lois aujourd'hui permettent plus facilement de changer d'identité. Maintenant, pour comme vous l'avez très bien dit, les démarches administratives sont complexifiées. Faire un passeport, une carte d'identité, un permis, c'est plutôt très long aujourd'hui. Et sauf que nous, on doit tout refaire.
Oui, donc, ça peut prendre un temps colossal.
Ça peut prendre un temps colossal. Mais une transidentité, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Une transition, on va dire. Donc, il y en a, bien sûr, qui sont pressés, qui voudraient tout de suite. Aujourd'hui, il y a des quiproquos. Quand je donne mes papiers avec ma ancienne photo et mon ancien genre et mon prénom, ça fait rigoler. Enfin, rigoler. Il y a des quiproquos, quoi. Voilà, à la poste, la personne, j'amène le recommandé, j'amène le passeport. Elle tourne la feuille, elle dit mais vous n'avez pas rempli la procuration ? Je dis comment vous dire ? Non, c'est moi. Voilà, donc il faut s'expliquer. Bon, en même temps, moi, ça va. Donc, ce qui me dérange le plus, c'est quand au CREPS, par exemple, je dois signer des papiers officiels. Il faut que je le fasse avec ma identité actuelle, donc celle de l'homme. Donc ça me dérange. Ça commence à devenir très pénible. Donc, j'ai fait une demande de changement qui se fait au tribunal de grande instance. Donc là, je n'ai pas trop compris pourquoi non plus on doit être jugé par ça. Mais bon, globalement, dans toute problématique de changement d'état civil et autres, ça se fait au tribunal. Il faut qu'un juge statue de cette affaire. Bon, mais voilà. Donc moi, habitant dans le Tarn, j'ai fait ça à Castres et j'attends.
J'imagine que cela prend du temps. Le CREPS, en quoi consiste vos fonctions au niveau du CREPS ?
Alors, ça fait 9 ans que je suis président, puis maintenant présidente du CREPS de Toulouse. En fait, c'est présidente du conseil d'administration. Le CREPS, qui a une double tutelle, pas que de l'État, qui depuis 2 ans est sous la tutelle aussi de la région Occitanie. Donc, à un conseil d'administration qui entérine toutes les décisions et qui oriente les grandes stratégies de l'établissement. Et donc, je suis la présidente et j'anime ce conseil d'administration. J'aide aussi le directeur, qui lui est le vrai salarié, hein, qui dirige le CREPS réellement. J'aide le directeur justement à la prise de décision, aux grandes orientations, à représenter le CREPS dans toutes les réunions ou dans toutes les opérations médiatiques qu'il peut y avoir. Et mon rôle s'arrête là, essentiellement. Donc, c'est un rôle bénévole. Je ne touche absolument aucune rémunération. Et pour moi, ça me permet de rester dans le monde du sport. J'ai quand même vécu 30 ans dans le monde du haut niveau, du sport. Et j'ai encore quelques compétences à amener. D'ailleurs, je suis reconnu sur ces sujets-là. Et c'est la raison pour laquelle, à l'annonce de ma transition, ils ont souhaité à ce que je continue mon mandat. Et sans aucune limite d'ailleurs, et même avec fierté quelque part. Et la présidente de région l'a encore confirmé. Dernièrement, j'étais encore assise à côté d'elle et on en a reparlé. Je crois, comme vous l'avez évoqué, on a changé de siècle et que les personnes transgenres doivent être vraiment considérées comme des personnes avant des personnes transgenres, avec des compétences, avec des savoir-faire. Et avec presque une double compétence, celle de connaître l'homme, de connaître la femme, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce qu'il y a des personnes transgenres, il y a des femmes qui deviennent des hommes aussi. Hein. Et que les compétences ne sont pas issues du genre, elles sont issues simplement de sa formation et de son charisme.
Au niveau du CREPS, ça s'est bien passé pour cette transition ?
Ça s'est très bien passé au niveau du CREPS parce que d'abord le directeur, je le connaissais, c'était un ami qui est un ancien kayakiste aussi. Je l'ai averti très très tôt. Il le savait, j'étais encore un homme. Et je dis voilà, ça va prendre des mois, des années peut-être, mais on organisera donc un conseil d'administration, en fin de compte, un conseil d'administration alors que j'étais un homme. J'ai annoncé la nouvelle. Et que ce soit la direction des sports ou que ce soit le conseil régional. Ils m'ont confirmé en disant que pour eux, ça ne changeait absolument rien. Et donc, quelques mois plus tard, je suis revenu et j'ai troqué mon costard par mon tailleur. Et nous avons fait un conseil d'administration excellent. Les budgets, les lois, les règlements, tout a été voté. Et c'était presque après, on va dire, pas un peu la surprise de départ, mais c'est resté un non-événement. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un président ou présidente, ils avaient besoin de compétences, les compétences étaient là, elles ont été reconnues et ça n'a posé de problème à personne.
Comme quoi, on parlait souvent du milieu un peu macho du sport, comme quoi ça peut être aussi une idée reçue et que le monde est encore en train d'évoluer sur toutes ces a priori.
Le monde du sport a une ambivalence. C'est-à-dire que le monde du sport, quand même, initialement, est dominé par le monde masculin. Ça, c'est clair. De moins en moins, mais quand même. Le CIO fait d'énormes efforts à la parité, et parfois de façon pas très heureuse, mais au moins, ça a un impact positif. Et cette féminisation du sport doit passer par justement la reconnaissance que la performance est identique, y compris si le résultat n'est pas le même. Je veux dire, un 100 mètres, la femme, elle ne va jamais courir comme un homme, le 100 mètres. Par contre, la performance sportive de la femme vis-à-vis des autres femmes, elle va être énorme. Moi, je le sens bien, puisque à l'arrêt de la testostérone et avec mes prises d'hormones œstrogènes, j'ai mes capacités physiques qui ont fondu, qui se sont écroulées. Donc je sens bien qu'il y a une forte différence. C'est pas que les femmes sont moins fortes, c'est que les hommes sont dopés à la testostérone. Et d'ailleurs, les Allemands de l'Est à l'époque prenaient de la testostérone, c'est pas pour rien, c'était parce que c'est un vrai dopant. Donc c'est pas les femmes qui sont moins fortes que les hommes, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les hommes, ils ont cette faculté animale d'avoir un produit qui s'appelle la testostérone et qui est un vrai dopant. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans ce monde, on va dire, du sport qui se féminise, mais qui reste quand même à dominante masculine, la transidentité, ça pose d'énormes questions. D'énormes questions. Et le sportif, surtout de très haut niveau, est quelqu'un de curieux. Quelqu'un qui, pour être à son niveau de performance, a les yeux et les oreilles grandes ouvertes, et essaye de se nourrir de tout ce qui peut lui apporter quelque chose. Et à ce titre, une transidentité, c'est pareil. Pour eux, c'est un phénomène qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, et donc ils ont besoin de comprendre. Une fois qu'ils l'ont compris, c'est accepté, c'est assimilé. C'est-à-dire qu'un processus qui chie quelqu'un peut prendre des semaines ou des mois, un sportif de haut niveau, en deux jours, il a fait le tour de cette affaire-là. Et donc, je me suis aperçu que la plupart des sportifs de haut niveau que j'ai croisés, à qui j'ai dit ma transidentité, l'ont très vite assimilé, mais en me posant un milliard de questions, de curiosité, mais de curiosité bienveillante. Pour poser voilà, tout ce qu'on peut poser à une personne transgenre, comment ça se fait, comment c'est possible, qu'est-ce qu'on ressent, enfin, voilà, toutes les questions qui peuvent tourner autour de ça. Après, il reste des sports, on va dire, où la virilité reste le facteur, on va dire, déterminant. Voilà, vous prenez le rugby, par exemple, dans les vestiaires, il n'y en a pas un qui va s'amuser à faire la fille, quoi. C'est, à un moment donné, c'est plus le concours, justement, de la testostérone, de celui qui va rouler plus les mécaniques, qui va gagner. Donc, un rugbyman qui, du jour au lendemain, va dire « je suis une personne transgenre », je pense qu'il va y avoir des moqueries, il va y avoir des rigolades. Mais par rapport au combat sportif, les personnes peuvent très bien le comprendre d'un point de vue humain. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le sport est un sport macho, mais dans tous ces machos qui, entre eux, bougent des épaules...
C'est une façade.
C'est une façade. Derrière, vous avez des grands humains, des gens qui sont prêts à comprendre ça et qui sont prêts à l'accepter. Donc, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Oui, bien sûr que le sport reste un domaine masculin très macho, mais entre eux, voilà. Dès qu'il y a des filles qui sont là, déjà les comportements changent et les personnes transgenres, il n'y a pas de raison de ne pas les accepter.
Très bien, maintenant nous allons passer à la séquence littéraire.
La minute littéraire d'Oxyform.
Alors nous allons écouter le choix littéraire de l'invité.
Alors c'est Ta deuxième vie commence le jour... Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Pour moi, c'est un livre qui a été écrit par Raphaël Giordano et qui est pas vraiment un roman d'ailleurs. C'est presque plus un manuel de psychologie, on va dire, du bonheur, romancé, mais qui est un peu manuel, quoi, un manuel du bonheur. Et moi, il m'a beaucoup fait rire parce que je retrouve plein de caractéristiques. Humaine de nos sociétés d'aujourd'hui. On court à fond, on va à fond, on part dans des vies théoriques et on oublie la vraie vie, celle qui crée le bonheur, celle à la recherche du bonheur. Ma transidentité est l'issue d'une recherche du bonheur. Elle est l'issue, on va dire, d'une petite dépression, mais quelque part, un malaise profond que j'avais, que je n'arrivais pas à résoudre et qui... Je n'aurais jamais pu le résoudre si je n'avais pas fait ma transition, puisque je vois bien le bonheur dans lequel je baigne aujourd'hui. Et ce livre, il raconte un peu ça, pas pour la transidentité d'ailleurs, hein. D'ailleurs on en parle très peu ou même pas du tout, je ne me souviens plus. Mais par contre, c'est, voilà, c'est une personne qui vit bien, qui a l'impression d'être heureuse, mais qui ne l'est pas. Et qui découvre par X...
Par des choix,
et qui va découvrir son vrai fil conducteur, et au final, d'ailleurs, décupler ses capacités, décupler ses forces, et surtout, vivre heureux. Parce que la vie, c'est quand même un cadeau qu'on a, on ne la comprend pas, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi, voilà. Après, il y a plein de gens qui ont des explications, mais enfin... Elles sont plus ou moins douteuses. En tout cas, on n'en a jamais eu les preuves de rien. Par contre, on a la preuve bien qu'on existe. Au moins parce qu'on a la conscience de ce que l'on est. Et de la conscience que vous êtes en face de moi et que vous me posez des questions. Donc, ces consciences-là font que derrière, cette vie, où de toute manière, la fin de vie nous est tous commune, on sait qu'on va tous mourir. Et donc, on va dire, ce côté, il n'est pas très heureux. Il n'y avait que les esclaves noirs qui trouvaient ça sympa de mourir pour dire à quel point leur vie était intéressante.
La vie devait être vraiment horrible pour en arriver à souhaiter la mort.
Ah ben c'est exactement ça. Et je pense qu'il y a des migrants qui préfèrent risquer à 98% de mourir en pleine mer que de garder... parce qu'ils savent que de toute façon, chez eux, ils vont mourir. Et puis nous, quand on les accueille, c'est à grands coups de barres de fer et de grillages. Mais le livre, il explique que derrière chaque vie, il y a un bonheur. Mais il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher parce que parfois, ce n'est pas dans le confort qu'on trouve le bonheur. Parfois, c'est un peu en se poussant, en se perturbant, en créant des petites ruptures, des petites choses, voire des grandes ruptures. Et bon, mais ça me parle parce que moi, c'est ce que j'ai dû faire.
Très bien. Alors moi, pour le conseil de lecture d'Oxyform, alors c'est marrant parce que vous m'avez parlé des postures que prennent les hommes par rapport aux femmes. Alors j'ai choisi de Joseph et Caroline Messinger, « Savoir parler en public avec son corps ». Alors ce petit livre comporte des illustrations et nous permet d'acquérir des bases en langage corporel et de décoder les messages inconscients que peut envoyer un interlocuteur et que l'on peut nous-mêmes envoyer. Donc c'est un livre que je classerai dans le bien-être, qui est très intéressant. On en apprend beaucoup sur tout le monde, en fait, sur nos attitudes inconscientes, justement, et des postures qu'on peut envoyer aux personnes qui nous entourent. On va maintenant parler courses à pied.
Les courses à venir dans la région.
Alors, nous avons les foulées Inardaises ce dimanche 6 mai 2018. Le départ est à 9h45 et vous propose une course de 5 ou de 12 km à Pointis-Inard. Ensuite, nous avons le trail de Pompertuzat, ce mardi 8 mai 2018. La course commence à 10h et c'est un parcours de 17,3 km.
Oxyform. Oxyform.
Nous remercions Sandra Forgue. Vous étiez sur Oxyform, une émission de Romain Galtier. Nous remercions Jean-Louis Arzac à la technique. La semaine prochaine, nous recevrons Thomas Pelletier, un coach en développement personnel, ainsi qu'un passionné de sport et de montagne. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Oxyform ou Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station ou sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.